Moi, la première notion de trace qui me revient, c'est d'aller à l'école, de me rendre compte que d'autres enfants riaient de moi, me rendre compte que c'était au bout d'un moment que c'était parce que je portais la terre sous mes chaussures. Quand on a des crampons, que la terre s'accumule entre les crampons, vous allez à l'intérieur et tout d'un coup, ploc, ça tombe comme ça. Et sous la table, à l'école, sous le bureau, il y avait la terre qui s'accumulait. Donc il y avait les enfants qui pensaient à taper leurs pieds à l'entrée et ceux qui n'y pensaient pas parce que ben, j'avais plus envie d'apprendre que de taper des pieds. Et voilà. Mais c'était aussi, c'est pas, ça ne s'arrête pas au ce côté anecdotique, c'était assez représentatif pour moi à l'époque déjà de la part de certains enfants de ce désir de se distancier de leurs origines, qu'il y avait, c'est l'enjeu autour de ce qu'on avait l'air d'être, d'où on venait, hey, d'où tu viens, toi, qui vous renvoyait automatiquement à vos origines paysannes. Donc certaines, je me souviens, certaines filles qui voulaient surtout pas être associées au monde paysan. Les garçons moins, puisque les garçons ont le monde pour eux. Les filles, il faut toujours paraître, donc elles avaient conscience que si elles avaient de la terre sous les godasses, ce serait moins chic. Moi, j'en avais rien à foutre, mais j'ai bien conscience qu'il y avait déjà ça au départ, cette notion de trace par la terre de l'endroit où vous venez, par votre classe sociale. Et un jour, je me suis rendu compte qu'il suffirait pas que je tape mes pieds. Un jour, j'ai rendu visite, enfin, ma tante qui habitait à Paris, qui travaillait, je crois, au ministère de l'Équipement, un truc comme ça, m'a prise en vacances chez elle l'été. Et un jour, elle m'a emmenée avec elle au bureau pour travailler. J'ai vu toutes ces secrétaires qui se levaient, qui se penchaient vers moi, puisque j'étais plus petite, je devais avoir, je sais pas, 7, 8 ans. Elle me dit, alors d'où tu viens, quel âge tu as? Et quand j'ai dit, voilà, oui, je me souviens, j'ai dit 8 ans. Elles ont toutes ri, mais alors c'était comme une chorale de rire, un chœur de rire, des pies qui riaient. En m'imitant, 8 ans, 8 ans. Donc pour moi, la notion de trace, croyez-moi, ça laisse des traces, oui, c'est le cas de dire. C'est-à-dire que vous avez beau essuyer vos pieds, il y a toujours quelque chose qui fera que, si c'est pas la police, ça sera l'État, si c'est pas l'État, ça sera l'intelligentsia, qui n'est jamais là que pour servir l'État de toute façon, et faciliter le travail de la police aussi, en polissant tout, justement, qui va vous rappeler vos origines. Alors, vous allez être. On ne peut pas tous être un personnage de Stendhal ou de Balzac. On est des gens très ordinaires pour la plupart, mais raison de plus pour que le chemin soit encore plus dur, puisqu'on nous renvoie sans cesse en arrière. C'est le tonneau des Danaïdes sans cesse. C'est-à-dire qu'en France, on doit parler français. Et si on ne parle pas français à l'origine, on doit très vite s'y mettre. Et on doit le parler avec l'accent du roi. L'accent du roi, c'est celui qui a réussi, c'est l'accent de l'Île-de-France. Donc, on est toujours piégé. Si on veut survivre, il faut faire certaines choses et ne pas en faire d'autres. Donc, quand on veut survivre et quand on est enfant, soit on se rebelle complètement et on finit en maison de correction, soit on, comme ça, on nage, on nage. Et si on se débrouille bien à l'école, on a l'air de s'en sortir. Ça donne l'impression à tout le monde qu'il n'y aura pas de problème. Mais moi, le problème, je le porte en moi. C'est-à-dire qu'on gère ça comme on peut. Moi, j'ai pris très vite conscience déjà de la langue qu'on parlait qui était interdite. Donc, tout allait avec. Je veux dire, même si je ne pouvais pas analyser qu'un accent est dérivé d'une langue par rapport à une autre langue et que tout le monde a un accent, puisque c'est qu'une question de comparaison, enfin, de point de vue d'une langue à l'autre. Dans la mesure où je me suis intéressée à cette langue qui était interdite, ou qui ne l'était plus ouvertement, mais qu'on vous encourageait surtout pas à parler, ça fait le puzzle, quoi. Les choses se sont mises en place, et pour moi, on est passé de la honte à la fierté. Voilà, et ça a été, c'est comme ça que j'ai survécu. Et je pense que si je n'avais pas pris conscience de cette histoire de langue occitane, peut-être que la honte aurait plus subsisté et que je n'aurais pas su quoi en faire. Mais la honte, c'est comment dire, c'est comme du matériau pour brûler, quoi. Ça vous fait avancer. Donc la honte, je la ressens encore, puisque de toute façon, elle nous est imposée. mais je la ressens pas d'une manière violente. Ça ne me donne que de la colère, parce que j'aimerais être une philosophe, j'aimerais être une intellectuelle digne de ce nom, j'aimerais être une politicienne pour pouvoir décaniller tout ça et qu'on puisse tous marcher avec n'importe quel accent.
Du coup, comment ça a commencé le conte pour vous ?
Ben, parce qu'à la campagne, les gens, du moins la génération de, encore de mes parents, c'était une génération où on ne pouvait pas vivre sans raconter quelque chose. Quand vous marchiez sur la... Je me souviens, quand on allait à l'école à pied parce que ce n'était pas très loin de la maison. Vous pouvez croiser deux voitures ou deux tracteurs. Et ça discutait ferme. Et pas question de les déranger. Donc, il fallait les contourner. Si vous étiez en voiture, évidemment, il fallait attendre. On klaxonnait les gamins seulement au bout de 5-6 minutes. Voilà. Donc, c'est l'importance de raconter quelque chose. Et c'est pas le côté hableur que les Français d'outre-Loire reprochent aux gens en dessous de la Loire. C'est juste comment on saisit la réalité, comment on s'en empare et comment on la passe aux autres. Moi, je me souviens de voir mon père descendre du tracteur ou descendre de la voiture, et qui tressautait justement comme ça, qui rigolait. Et il arrivait, je le vois se laver les mains et se mettre à dire « Oh, ma cara, il y a une telle... » Et il commençait à parler de quelqu'un, de quelque chose dont il avait entendu parler, que quelqu'un lui avait raconté, ou quelque chose qu'il avait vu au village ou sur la route. Et on savait forcément que ça avait pris une dimension supérieure. Il y avait de l'augmentation dans ce qu'il allait nous dire. Mais c'était sa manière à lui aussi d'apprécier quelque chose qu'il avait vu ou qu'on lui avait raconté, l'apprécier au point de pouvoir le raconter, que ça vaille la peine de le raconter. C'est comme ça aussi qu'on construit un paysage, c'est-à-dire avec toutes les histoires. Je sais que quand je passe à tel endroit, c'est l'endroit où la tourte de 5 kilos a dépassé machin qui était complètement bourré. Il a buté dans quelque chose, il portait une tourte de pain à l'arrière de son vélo, et la tourte, elle l'a doublée, et il a cru que c'était un animal, il a cru que c'était le lébérou, par exemple. Donc c'est quand je passe par tel endroit, je sais que c'est à cet endroit que c'est arrivé. Et ça n'a rien de magique, c'est juste que le mec était bourré. Et le pain, il a buté, donc le pain est sorti de son porte-bagage ou je ne sais pas quoi, et elle l'a doublé. Comme ça, donc on a le lieu... Dans le monde paysan, la géographie est importante, c'est-à-dire que la géographie, la végétation, voilà, tel rocher là-bas, ben, quand on vous dit tu tournes après le châtaignier ou je ne sais pas quoi, ou tu tournes après le gros caillou, ben voilà, tu es censé connaître cet arbre et ce caillou. Et si tu ne le connais pas parce que tu arrives juste, ben, tu ferais bien de le connaître. Vu de l'extérieur, oui, ça peut paraître comme du conte, mais c'est juste la manière de gérer l'endroit où on vit. Et après, pour ce qui est des choses à voir avec les êtres humains, dans la mesure où le monde paysan vivait en petite communauté, tout le monde se connaissait. C'est-à-dire qu'on vous regarde, moi après 7-8 ans de ne pas être venue dans mon village, « Bonjour, ça, c'est la fille de Jeannot. » Mon père, puisque j'avais les mêmes os, les mêmes pommettes, j'avais les mêmes yeux. Donc des gens pouvaient me reconnaître avant que je dise qui j'étais. Comment dire, à partir du moment où on connaît votre généalogie, on connaît le caractère parfois de vos ancêtres. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il était ? Mais il était, comment dire ? Il s'énervait pour un rien. Et on peut vous parler de quelqu'un qui est mort il y a 100 ans, pour parler de quelqu'un qui est maintenant, du caractère de quelqu'un de maintenant. Pourquoi un tel a fait ça ? Oh, mais son grand-père n'aurait pas fait mieux. Et ce n'est pas du commérage pour commérer, c'est juste la connaissance de là où vous habitez et des gens avec qui vous êtes. C'est pour ça qu'il y a des fois aussi du non-dit, il y a des fois des ellipses dans la manière de communiquer, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, on le sait. Au contraire, il y a de la redondance, parce qu'on veut jubiler en accumulant les trucs. Donc, ça, c'est dans la continuité du comportement des gens de la campagne ici, cette propension à parler, à augmenter les choses et à faire circuler des histoires. Mon père pouvait parler d'un maçon qu'il avait connu quand il avait 4 ou 5 ans, qui est venu pour aider à construire la grange. Et ce gars avait déjà 70 ans. Et mon père l'avait connu quand il avait 4 ou 5 ans. Et voilà que mon père, à 50 ou 60 ans, parlait de cet homme qui était mort depuis belle lurette. Il pouvait l'imiter, il pouvait le citer. Et je le dis en connaissance de cause, puisque j'ai connu mon père assez longtemps pour l'entendre plusieurs fois parler de cette personne. Donc, le conte, c'est comme dans certaines cultures où vous avez plus de chants que dans d'autres, par exemple, ou plus de danse. Comment dire ? Ici, il y avait quand même un goût pour le racontage. Donc, moi, j'ai vécu ça dans ma famille, alors qu'il n'y avait personne qui était reconnu comme un conteur dans ma famille ou qui se définissait comme conteur. Et en général, les conteurs de campagne ne se nommaient pas eux-mêmes conteurs. C'était leur réputation qui faisait qu'on disait « Ah, ben, celui-là, c'est un bon conteur ». Mais j'ai entendu tellement, justement, de choses comme ça que c'était... raconter n'était jamais qu'une extension de la parlure en général. C'était une continuation logique. Et c'est pour ça que quand je raconte ou si j'anime un stage de conte, par exemple, je veux qu'on retrouve cette... Et je le recherche en moi-même, et ça me vient assez facilement, puisque c'est comme ça que je le ressens, c'est cette continuation, c'est-à-dire de parler, de passer à ce qu'on appellera un conte ou une histoire. Parce que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de ce qu'on respire. Je me souviens là d'un voisin qui habitait sur la colline en face. Et, je sais pas, un jour, là, il parlait avec mon grand-père, ils étaient la même génération, ils étaient copains. Et il parlait d'une maladie ou d'une épidémie ou je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas comment il l'a emmené, mais l'image me frappe encore. Il disait « Paura, Luce, se pudion pas tenere de pêche, se pudion contre le mur, parce que pudion pas se tenere. » Il parlait des chiens qui étaient tellement affaiblis par cette épidémie qu'ils ne pouvaient plus tenir à quatre pattes. Ils étaient là appuyés contre les murs à se tenir parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas se tenir autrement. Et l'idée de chien qui s'appuie contre un mur, un chien qui est quelque chose de très de vital, de vivant, dans toute, qui est l'exemple même de la vivacité, l'idée de ces chiens-là qui étaient là appuyés contre les murs comme quelqu'un qui est bourré, quoi, finalement, était complètement contre nature. Que j'ai toujours gardé en moi cette image. C'est-à-dire qu'il pouvait parler de quelque chose de très sérieux et l'étendre à autre chose. Parce qu'à ce jour, on ne sait pas si c'est vrai, si les chiens ont été atteints par cette épidémie ou quoi. Il n'empêche que l'image reste. C'est-à-dire que c'est autorisé dans le conte d'avoir cette l'hyperbole, d'avoir l'exagération, tout ce que vous voudrez. Et du coup, ça rentre dans la réalité quotidienne. Et de la même façon, la réalité rentre là-dedans. Et il vient un moment où vous ne savez plus ce qui est de l'ordre de la réalité acceptable et de l'ordre de la fantaisie. Verfremdung Effekt, comme disait Bertolt Brecht, la notion de distanciation qui est très forte à partir du moment où vous racontez une histoire qui met en scène, je ne sais pas, un renard et un lion, vous n'allez jamais penser que ça vous concerne. Manque de peau, vous allez absorber tout ce qui va se passer entre ce renard et ce lion, aussi, encore mieux que si c'était deux êtres humains. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la chasse volante. Je pense à quelque chose que ma grand-mère, quand j'étais petite, elle m'a dit un jour, si au mois de novembre, la nuit, tu entends des cris, des aboiements, des hennissements, et que tu vois rien, mais que ça ait l'air de venir du ciel, tu sauras, c'est la chasse volante. Et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Un jour, elle me l'a redit, et je crois que c'était au mois de novembre, le soir, et j'entendais rien. Et il est venu un moment où j'ai eu l'impression que j'entendais quelque chose. Puis bon, ma grand-mère est morte. Et j'ai continué avec cette idée de « mais qu'est-ce que c'est la chasse volante ?» Et en m'intéressant au conte, j'ai vu que c'était quelque chose qu'on appelle la chasse-galerie, par exemple, dans toute la côte atlantique, et qui est partie avec les gens qui ont émigré au Québec. Donc on va le trouver là-bas. Il y a des gens qui vous diront que c'est le roi Hérode qui a été puni et qui chasse pour l'éternité dans le ciel. D'autres gens vous diront que c'est juste des gens qui chassent dans le ciel. Plus tard, j'ai fait du collectage de la mémoire en Périgord vert. Et là, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais c'est le nom qu'on donne à la chiasse qu'on a parce qu'on a trop mangé à carnaval. » Il y en a qui disent que c'est les grues, il y en a qui disent que c'est les oies sauvages. Et une femme, là, Adrienne Brissot, je me souviens, qui me dit « Moi, je sais qu'une chose, c'est que quand ça passe, tu tires dans le ciel et il tombe des petits chiens. Tombe d'Auxerre-Aliou. » D'accord. Donc, je me suis trouvée en situation où je ne savais toujours pas, par contre, l'origine de ça. Je disais aux gens « Mais pourquoi ?» Et ils ne savaient pas. Ils savaient juste certains symptômes. Et ils n'étaient pas d'accord. Mais non, c'est pas comme ça. Et ben, voilà. Mais personne ne pouvait me dire pourquoi c'était arrivé à être ça. Entre-temps, moi, j'avais tellement envie de... Comment dire, ce sujet, ce motif, comme on dit dans le conte, m'intéressait tellement que j'avais écrit une histoire qui raconterait l'origine de ça, tout simplement. À partir de ce que ma grand-mère m'avait dit, parce que ça me touchait beaucoup. Et voilà, j'ai pondu une histoire comme ça. Crezi che cocumence i tal? Un codetto ludillo terre, tre grude bla e l'entorno cotta de terre. On fait un trou dans la terre, on met trois grains de blé, on rabat la terre. Vous qui savez sûrement semer le blé, vous savez qu'il y a des manières plus efficaces de faire plus rapide. Vous mettez le grain dans votre tablier, vous le mettez dans un panier et on le voulade. Oui, mais cette femme, elle ne pouvait pas se permettre de semer le blé à la volée comme ça. Elle ne pouvait pas perdre un seul grain de blé dans le bec d'un oiseau, parce qu'elle avait déjà tout perdu, cette femme. Son homme, il était mort à une des petites guerres. Non, ça, c'était son fils qui était mort à une des petites guerres du Seigneur. Son homme, lui, il était mort à force de donner des journées de travail au Seigneur. Et c'est drôle. Sa fille, le Seigneur l'avait trouvée jolie, et un jour, elle n'était pas revenue. Alors, vous pensez bien qu'elle n'allait pas laisser partir un seul grain de blé dans le bec d'un oiseau. Elle avait ensemencé le champ aux trois quarts quand tout d'un coup, elle a entendu des cris, des aboiements, des hennissements. Ça venait du château. Le Seigneur partait à la chasse avec ses amis. Ma che trinque pas ma terre! Ce ne serait pas la première fois qu'il traverserait une terre juste ensemencée. Et quand elle l'a vu arriver, avec tous ses amis, toutes ces dames qui riaient très fort et ces messieurs qui parlaient très fort sur ces chevaux si beaux, avec tous ces chiens, tous mieux nourris qu'elle. Quand elle les a vus s'approcher, quand elle a vu que le Seigneur allait mettre pied sur la terre juste ensemencée, elle a couru vers lui, elle lui a crié « Hey, des champs maintenant !» Et lui, il s'est dressé sur ses étriers, il a dit « Hey, copo verme !» Paraît que le Seigneur appelait les paysans « coupe vert ». À qui elle appartient cette terre? La terre appartient au Seigneur, elle devrait être contente qu'il la lui laisse travailler. Alors la femme dit rien, elle laisse faire. Et lui, il fait signe à tous ses amis et ils font danser leurs chevaux, là, sur la terre, qu'elle vient juste de semer. Les chevaux dansent, les dames rient, les messieurs rient aussi très fort. Les chiens pissent partout. Et quand ils sont fatigués de faire danser leurs chevaux, ils s'arrêtent un peu essoufflés et ils la regardent. Ils regardent la femme. Et elle les regarde, un par un. Ay, ma cosa? Poché si accocha per l'éternita. Elle leur souhaite, puisqu'ils aiment tant chasser, de chasser pour l'éternité. Et à peine a-t-elle dit cela, pauvre, que tout ce monde s'élève de terre. Et les voilà qui se mettent à crier, à hurler, à pleurer, à demander « Daishonu dobola, fozziliere !» Mais celle qu'ils appellent la sorcière et qu'ils supplient de les laisser redescendre a repris son travail. Un codetto ludillo terre, trois grains de blé et on rabat la terre. Tandis que dans le ciel s'élève ce qu'on appelle chez nous le cachoulante. Alors, si un jour de novembre, vous vous trouvez en Périgord, un de ces jours où vous savez d'où vous venez, mais vous ne savez pas trop où vous allez, tant il fait sombre, si vous entendez des cris, des aboiements, des hennissements, et que ça a l'air de venir du ciel, mais que vous ne voyez rien, vous saurez que c'est ça, que c'est la chasse aux lentes.